Quand la génétique et la généalogie se croisent, c'est aujourd'hui, Axel, à la une de la science.
Oui, Mathieu, des disciplines qui paraissent éloignées de prime abord, mais qui se retrouvent dans un travail publié la semaine dernière par deux chercheurs québécois. Ils ont étudié des registres de mariage et de naissance de plus d'un million de personnes entre 1608 et 1800 au Québec et pensent avoir trouvé un effet direct de la sélection naturelle sur la révolution démographique puis économique qui a eu lieu dans le pays au 19e. Alors, pour comprendre l'originalité de ces travaux, nous sommes avec Evelyne Ayer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, qu'ont découvert de si intrigant ces deux chercheurs en se penchant sur la société québécoise du 17e et 18e siècle?
Ils ont trouvé quelque chose de très intéressant, dont on se doutait, c'est qu'à un moment donné, les individus qui ont un plus fort succès reproducteur, c'est-à-dire qui transmettent le plus de descendants à deux ou trois générations, c'est pas forcément ceux qui ont eu le plus d'enfants.
Ah bon?
Non, c'est ceux qui ont eu un nombre intermédiaire d'enfants. C'est-à-dire comme si d'en avoir un peu moins permettait d'avoir des enfants de meilleure qualité qui eux-mêmes vont mieux se reproduire. Et donc, la reproduction, le succès reproducteur, c'est pas d'en avoir le plus possible, mais c'est d'en avoir de meilleure qualité possible.
Mais comment est-ce qu'on fait pour le voir 300 ou 400 ans après alors ça?
Ah ben, ils ont fait ce qu'on appelle des fichiers de population. Donc, pour chaque individu de la population, ils ont la naissance, le mariage et tous les enfants, à quel âge ils ont eu chacun de leurs enfants. Donc, ils peuvent calculer pour un individu sa fertilité, on verra après comment ils la calculent, et relier ça avec le nombre de petits enfants qu'ont eu ces individus.
Evelyne, il faut peut-être juste expliquer que justement à l'époque, dans les registres québécois en particulier, on avait toutes les informations possibles hein, quand les Français sont arrivés justement en Nouvelle-France.
Alors le Québec est colonisé à peu près au XVIIe siècle et dès le XVIIe, on a les registres paroissiaux, donc les curés relevaient toutes les informations dans le détail et c'est en dépouillant tous ces registres et surtout en les jumelant, c'est-à-dire en retrouvant quel individu est relié avec tel autre, qu'on arrive à faire ces très grosses études démographiques.
Mais alors vous le disiez, et ce que j'ai pas bien compris, c'est comment on en déduit une relative fertilité d'une femme à cette époque en regardant juste son acte de mariage et la date de naissance de son premier enfant.
Eh ben, on utilise un truc, c'est que, en fait, à cette époque-là, en général, on n'avait pas de rapport sexuel avant le mariage.
Oui.
Donc, le début des rapports sexuels commence au mariage. Et en fait, on calcule l'intervalle entre le mariage et la naissance du premier enfant, ce qu'on appelle un intervalle intergénésique. Et ça, c'est un indicateur de la fertilité. S'il est court, assez souvent d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est 9 mois. En gros, dès que vous commencez à vous reproduire, ça marche. Et s'il est plus long, ça veut dire que vous avez une fertilité au sens biologique plus faible.
Et pourtant, c'est ces femmes-là qui, 100, 200 ans après, ont plus de descendants. C'est ça qu'ils voient.
Voilà, c'est ce qu'ils voient. C'est qu'en fait, l'optimum, entre guillemets, d'un point de vue de la descendance, c'est pas d'être le plus fertile, mais il vaut mieux être un peu moins fertile, mais quelque part, avoir des enfants en meilleure santé.
Quel est le lien avec l'économie du pays?
Alors eux, ils essayent de mettre un lien avec l'économie dans le sens où on est dans une population en croissance et que donc on est à un moment où on peut avoir, entre guillemets, un grand nombre d'enfants.
Ce qui était le cas au Québec à cette époque.
Oui, hein.
La moyenne, c'est vertigineux. Hein.
Les moyennes, je les ai
plus en tête.
C'est
autour de 8-10 enfants,
oui,
je crois.
Ça,
oui, parce que là, on voit dans l'article, c'est les familles avec 100 petits enfants ne sont pas rares.
Ouais.
Donc c'est vraiment une époque où finalement...
très productif. Ouais.
Voilà, très productif. Il n'y avait pas de limite, entre guillemets, au nombre d'enfants à avoir. Et eux, ils pensent qu'après, on rentre dans ce qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est le moment où, on a vu ça dans tous les pays d'Europe, la mortalité infantile diminue et suite à ça, on limite les naissances. En gros, on passe de grandes familles avec beaucoup d'enfants, dont certains mouraient en proportion élevée, à des familles plus petites, dont les enfants survivent mieux. Et donc, ils voient qu'il y a un lien entre ce changement et, entre guillemets, cette transition démographique. Mais la causalité, par contre, n'est pas claire. À partir de là, c'est des hypothèses.
Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de sélection naturelle quand même avec cet effet qu'on voit dans les généalogies?
Alors, l'intérêt des généalogies aussi, c'est qu'on peut mesurer ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part génétique d'un caractère. On regarde dans quelle mesure des apparentés se ressemblent pour un caractère et à partir de là, on calcule une héritabilité. Et il montre notamment que cette fertilité est en partie héritable. Mais l'héritabilité est très faible, hein. Elle est seulement de 5%. Pour vous donner un ordre d'idée, la taille, c'est 80%, l'héritabilité. C'est
D'accord.
faible, mais ça suffit pour qu'en peu de pourtant il puisse y avoir de la sélection naturelle. Et effectivement, il montre qu'en 3-4 générations, par sélection naturelle, on a une augmentation de cet intervalle intergénésique, donc le lien entre le mariage et la première naissance, de 4 semaines.
Est-ce que ce genre de lien entre des changements à l'échelle de la société et l'évolution de notre espèce existe encore aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours soumis à une forme de sélection naturelle ou pas?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une autre étude qui a été faite au Québec qui a montré ça, l'étude de l'île aux Coudres, où ils ont montré en à peu près 200 ans, par sélection naturelle, un changement notamment de l'âge à la ménopause, enfin de l'âge au dernier enfant, qui s'expliquerait par de la sélection naturelle. Et on s'attend à trouver ça dans nos sociétés, parce que si les femmes commencent à se reproduire plus tard, celles qui peuvent se reproduire le plus longtemps, c'est-à-dire qui ont un âge à la ménopause le plus tardif, auront en moyenne plus d'enfants que celles qui arrêtent leur reproduction plus tôt.
Donc par exemple la contraception, la procréation, le DPI, tout ça ne modifie pas le cours de l'évolution?
Ça va certainement jouer, mais c'est à la marge, hein. Il y a quand même des effets naturels qui restent, ne serait-ce que ceux qui sont liés tout simplement à la fertilité.
Alors on voit dans ces travaux, il y a 300 ans, qu'il y avait une fécondité optimale au final. Est-ce que aujourd'hui on pourrait la définir, cette fécondité optimale, en regardant, je sais pas, la France? Quelle serait la fécondité optimale aujourd'hui?
Moi je trouve que ça est très difficile à mesurer, la fécondité dite optimale,
dur.
Notamment en termes d'évolution. Il faudrait savoir dans 200 ans quels sont les gens actuels qui se sont le mieux reproduits. Puis en plus, je trouve que les humains, on n'est pas toujours à l'optimal d'un point de vue évolutif. Par exemple, au Japon, à l'heure actuelle, il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ne se reproduisent pas. En termes évolutifs, c'est certainement pas un optimum.
Alors, depuis le début, on parle, mais sans s'en rendre compte, de la capacité biologique des femmes et de la transmission de ces caractères. Est-ce que les hommes ont joué un rôle à un moment dans ces 400 ans d'évolution?
Alors, dans cette étude, ils ne le montrent pas. Mais par contre, on sait à l'heure actuelle en Europe qu'il y a un effet de la fertilité lié chez les hommes, notamment lié au chromosome Y. Et on voit de la sélection en cours à l'heure actuelle avec des hommes qui ont des chromosomes Y plus fragiles et qui donc sont plus soumis à des effets de l'environnement et qui perdent de la fertilité.
Merci beaucoup Evelyne Neyer. Un petit mot quand même sur votre actualité également, au travers d'un livre qui s'appelle « On vient vraiment tous d'Afrique, point d'interrogation » avec Carole Reynaud-Paligaud et qui fait suite à l'exposition sur le racisme au Musée de l'Homme.
Tout à fait, ouais. À partir des questions du public et des journalistes.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver alors exactement?
Eh ben, vous allez avoir justement des réponses à des questions que visiblement se posent les gens sur cette question du racisme.
Ouais, donc c'est une suite finalement à l'exposition.
C'est une suite.
Au travers de l'analyse de ces questions et c'est chez Champ Actuel, chez Flammarion. Merci beaucoup Evelyne Neyer.
Merci.
Axel, à demain.
À demain Mathieu.